l'exposé de Bruno Carcenti la semaine dernière, j'ai retrouvé dans sa description de ce que les Grecs pensaient, j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec ce que nos maîtres nous enseignent. Et en passant, j'essaierai de dire ce qui nous distingue d'eux essentiellement. Le premier point, c'est justement ce qu'il avait appelé un cosmos plein. Dans la Torah, on considère aussi qu'il y a une notion qu'on appelle, en hébreu, on appelle ça Olam Malé, c'est-à-dire un monde plein. On va y venir. Mais pour commencer, je voudrais rappeler un midrash qui est presque de circonstance. Lorsque, au Sinaï, Hachem s'est dévoilé, le midrash dit qu'il est venu avec 22 000 anges. On ne va pas entrer maintenant dans ce que sont les anges. En Shana Kodesh, en hébreu, on dit que le mot pour ange, c'est malach, qui est évidemment en parenté, en tout cas du point de vue de l'écriture, en parenté avec melacha, qui veut dire travail. C'est-à-dire que les anges sont ceux qui font le travail qu'Hachem leur ordonne de faire. Les anges sont chacun investis d'une mission, une à la fois. Il y avait donc 22 000 anges. Et ce qui a frappé les Bnei Israël à ce moment-là, c'est que ces anges sont venus avec des drapeaux, avec des bannières. Ces anges étaient organisés sous un certain nombre de drapeaux. Et le Midrash dit, on ne va pas entrer dans plus de détails, mais les Bnei Israël ont demandé à Hachem, ils ont dit, nous aussi on voudrait des drapeaux comme ceux-là. Comme les anges ont des drapeaux, nous aussi nous voudrions des drapeaux. Hachem leur a dit, effectivement, vous allez avoir des drapeaux, et dans la paracha de la semaine dernière, on a décrit les Bnei Israël qui étaient effectivement organisés en tribus, chaque tribu ayant un drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dévoilement de la divinité qui a eu lieu au Sinaï a montré une hiérarchie, une organisation. Ce qui s'est passé, c'est que chaque ange, comme je vous ai dit, a une certaine mission. Mais bien entendu, il y a des missions qui peuvent s'organiser, qu'on peut ranger sous la même bannière, si on veut. Et donc les anges ont montré que le monde d'Hachem, ce Olam plein, effectivement est organisé, il est structuré. Et les Bnei Israël ont demandé à être eux aussi structurés. Ils ont compris que ils avaient eux aussi, chacun d'entre eux, une tâche. On va utiliser le mot mission, mais ils avaient chacun d'entre eux une tâche, et que ces tâches pouvaient être regroupées. Il se trouve qu'elles sont regroupées en tribus, et que la tribu a justement un drapeau, une référence. Ce qui est très intéressant, c'est ce chiffre de 22 000, qui est le nombre de ces anges ici, correspond à ce que la Gemara nous dit La Gemara pose une question intéressante, elle demande quel est le nombre minimal de juifs pour composer ce qui serait encore le clan Israël, encore le peuple juif. Et dans le verset, on répond avec un verset, c'est marqué dans le verset « Rivevot alfei Israël ». Une revava au singulier, c'est une myriade. Rivevot, c'est au moins deux myriades. Alfei, c'est 2000. Ça fait donc 22 000. Donc, le minimum de juifs pour composer le peuple juif, c'est 22 000. Ce même chiffre ici, ça veut dire que, semble-t-il, dans ce monde, les missions s'organisent en 22 000 missions particulières. Le travail qui doit être fait dans le monde se structure à partir de ce chiffre de 22 000. Alors, et bien entendu, il y a plus que, il y avait déjà au Sinaï plus que 22 000 juifs, mais ça veut dire que il y a des missions qui sont peut-être dédoublées, garanties pour que si jamais quelqu'un est défaillant dans une de ces missions, quelqu'un d'autre est là pour le seconder, ou bien alors on a fractionné, ça je ne sais pas, on a fractionné les missions, mais essentiellement il y en a 22 000 probablement. Seulement pour, je veux seulement dire cela pour ce qui nous concerne directement, pour indiquer cette idée, c'est une première idée, il y a un monde plein. Ce monde plein, il est rempli, si vous voulez, au sens où il est pris en charge par le clan Israël, qui est le peuple, qui est donc lui aussi, il représente une plénitude. Et on va voir que il y a aussi, en fait, cette notion de plénitude, de olam malé, de monde plein, elle va descendre jusqu'à l'individu. C'est-à-dire qu'on va dire qu'en réalité, chacun d'entre nous est lui aussi un monde plein, en miniature bien sûr, mais chacun d'entre nous est un monde miniature. Et la Gemara dit que si on sauve un homme, si on sauve un de ses membres du clan Israël, celui qui le sauve, il sauve, l'expression qui est utilisée dans la Gemara, c'est il sauve Olam Malé, il sauve un monde plein. Pourquoi est-ce qu'il faut un monde plein? Il y a une notion de nom, au sens d'un nom divin, qui est appelé Shem Malé, un nom divin plein. C'est le nom qui est composé du tétragramme et du nom divin Elohim, Hashem Elohim. Ça c'est, Rashi l'explique sur le, au moment de, avant la création de l'homme, quand le verset dit qu'il n'y avait encore pas d'homme pour prier pour qu'il y ait de la pluie, donc rien ne poussait dans la Genèse, dans Bereshit. Rashi rapporte que le nom divin qui est utilisé à cet endroit-là, c'est marqué Hashem Elohim. On parle ici de ce Shem Malé. C'est-à-dire, pour nous, ça veut dire le dévoilement complet d'Hashem nécessite un monde plein, il nécessite le clan Israël, il nécessite un homme, chaque homme. Tout ça est nécessaire, c'est structuré, nécessaire pour permettre le dévoilement de Hachem. Pour permettre, ce qui est le but de l'exercice, c'est que Hachem puisse se dévoiler, qu'on puisse voir, constater ce qu'on appelle la présence divine dans le monde. L'enseignement qui figure sur le programme, qui est un Tanad Be'Eliyahu, qui est un Midrash, en fait, qui dit « Chayav Adam Lomar » « L'homme doit dire » On verra ce que ça peut vouloir dire, qu'il faut, qu'il dit, qu'il doit dire. Chayav, il a l'obligation de dire. Matay yagiu ma'asai. Quand est-ce que mes actes arriveront, le ma'asé avotai, à la hauteur des actes de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. En soi, c'est un peu surprenant, parce que on s'attendrait plutôt qu'on nous donne comme modèle les grands de ma génération, ou les grands éventuellement de la génération précédente. Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle qui apparaît quasiment inatteignable, qui est complètement différent de nous? C'est un modèle qui est constitué par des personnages qui n'avaient pas reçu la Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont avant le don de la Torah. Ils ne sont pas du tout dans les mêmes conditions que nous. Et par conséquent, on peut se demander en quoi est-ce que je peux prendre modèle sur des gens qui n'étaient pas du tout dans les mêmes circonstances que nous, mis à part leur grandeur. Alors, dans Mirtav Me'eliaou, le Rav Dessler dit que, bien entendu, il s'agit seulement, il faut entendre ce qui est dit, Yagiyu Ma'asai. Quand est-ce que mes actes pourront être à la hauteur de ceux des patriarches? Évidemment, nous n'arriverons pas, et ça ne fait pas partie du programme, à concevoir ce qu'ils ont conçu. Mais néanmoins, c'est un peu curieux, néanmoins, on nous propose d'agir à la même hauteur, d'agir de telle sorte que nos actes soient à la même hauteur que les leurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des actes qui n'ont pas besoin d'être produits par des gens qui comprennent ces actes comme les comprenaient les patriarches. Et néanmoins, ces actes doivent être à la même hauteur. Alors, le Rav Dessler répond que dans le travail spirituel, on est obligé de viser au plus haut. Et il dit que celui qui ne voudrait pas prendre modèle sur le plus haut doit savoir, parce qu'il dira c'est trop haut, etc., je prendrai plutôt modèle sur un grand de cette génération ou des gens dont on peut comprendre la grandeur. Comparable, on peut se comparer à eux, même si on les prend pour des gens beaucoup plus grands que nous. Il dit que si on se refuse à prendre comme modèle le plus haut, il faut savoir que c'est un signe clair qu'en vérité, on ne veut pas du tout prendre modèle, même du moins haut non plus. Ça, c'est ce que Rav Dessler dit. Alors, la première chose à dire sur ce texte, c'est que, puisque on nous impose de le dire, et si dire, c'est pas encore faire, mais c'est déjà une partie de l'action, on peut pas dire, il s'agit pas d'une formule, il faut se parler à soi-même. Matay yagiu ma'asai, quand est-ce que mes actes seront à la hauteur des actes des patriarches, on est obligé de dire que c'est possible. Bon, ça n'aurait pas de sens de faire une déclaration de ce genre-là si la chose n'était pas possible. Alors la première chose qu'on peut se poser ici, c'est comment est-ce qu'on peut prendre modèle sur trois personnages à la fois, alors que ces trois personnages sont très différents les uns des autres. Et Donc on doit se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun pour que je puisse prendre modèle sur eux? Si je suis censé prendre modèle sur les trois, il faut que je prenne modèle sur le dénominateur commun des trois. Mais quel est ce dénominateur commun? Et je peux poser la question à laquelle la Gemara dans Sanhedrin répond d'ailleurs. Qu'est-ce que les avot, qu'est-ce que les patriarches ont fait de si extraordinaire pour que Hachem les désire tant? Pourquoi ils les aiment tellement? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si extraordinaire? Alors la Gemara répond, Ratsu le fanav kesus. Littéralement, les patriarches couraient devant lui, devant Hachem, comme des étalons. Ils étaient sans cesse en train de courir. Sans cesse. Ce serait ça leur grandeur. Leur grandeur, c'est d'être en fait sans arrêt d'abord en mouvement. Et la comparaison avec les talons, ça veut dire si vous avez vu une fois courir un étalon, quand il est vraiment en liberté, il est extraordinaire, il s'amuse, il joue, il... C'est ça, le modèle qu'on nous propose. Si je regarde la situation d'avant Matan Torah, avant le don de la Torah, les Chachamim nous expliquent que quand Abraham est allé au secours de Lot, il y a eu une fois une guerre entre quatre rois et cinq rois, la fameuse guerre des rois au temps d'Abraham, et dans un des groupes, il y avait le roi de Sodome, Et à Sodome, il y avait Lot, qui était le beau-frère et le neveu d'Abraham. Et Lot a été fait prisonnier. Et nos maîtres enseignent qu'en réalité, toute cette guerre, elle avait pour but d'attirer Abraham dans un piège. Ils ont pensé que si on faisait prisonnier Lot, Abraham viendrait à son secours obligatoirement, et qu'on pourrait tuer Abraham, et s'en serait fini de ces valeurs d'Abraham avec lesquelles il nous saoule. On va pouvoir tranquillement vivre notre vie normalement, sans avoir sans arrêt ce rappel des valeurs d'Abraham. Que Lot était dépositaire aussi, et disons, il avait pris à son compte une grande partie des valeurs d'Abraham aussi. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, Abraham est venu au secours de Lot. Et ce qui s'est passé, ce qui est la dracha qu'on fait sur la façon dont Abraham est venu au secours de Lot, on explique que l'habitude était qu'on ne faisait pas la guerre de nuit. Et Midrash dit qu'Abraham a dit, je ne peux pas laisser Abraham passer encore laisser Lot, pardon, prisonnier encore une nuit parce qu'il y a une convention qu'on ne fait pas la guerre la nuit, je ferai la guerre la nuit aussi. Et donc il a fait la guerre la nuit, c'est-à-dire qu'il a changé la nuit en jour. Cette nuit-là, c'était en fait la moitié d'une nuit, ça a duré jusqu'à la mi-nuit. Cette nuit-là, c'était la nuit du 14 au 15 Nissan. Alors Hachem a dit à Abraham, toi tu as changé la nuit en jour pour sauver Lot. Je jure, a dit Hachem, que je transformerai la nuit, moi aussi, en jour pour sauver tes descendants. Et c'est la nuit de Pessah, c'est la nuit où on est sorti d'Égypte. C'est une nuit qui a été changée en jour, comme tout le monde sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que le modèle pour Hachem, c'est Abraham. C'est Abraham qui est devenu le modèle d'une conduite divine. Il y a un autre épisode, l'épisode avec Tamar. Tamar qui était la bru de Yehuda et qui a été, je pense, entrer dans le détail maintenant, elle a été accusée d'une forme d'adultère, elle allait être condamnée à mort, et elle a discrètement fait parvenir à Yehuda, le fils de Yaakov, les signes de la royauté de Yehuda, que Yehuda lui avait donné quand il l'avait prise pour une prostituée, et qu'il n'avait pas de quoi la payer, il lui avait laissé en gage ces signes. Elle lui a fait passer ces signes-là, il lui a dit « Je suis enceinte, c'est vrai, mais je suis enceinte de celui qui, de celui auquel appartiennent ces signes. » Et par conséquent, il y a une mitzvah qui s'appelle Yiboum, qui s'appelle Levira, qu'à ce moment-là on pouvait accomplir de cette façon-là. Donc en réalité, j'ai fait la mitzvah de Levira. Donc je ne suis pas passible de mort du tout. Seulement, on fait remarquer que Tamar n'a pas dit ça pour se défendre à son procès, elle ne l'a pas dit publiquement. Elle a fait passer les instruments en question à Yehuda, libre à lui de les garder sous le coude et de n'en rien dire, elle aurait été condamnée à mort. Et nos maîtres disent qu'on apprend de Tamar qu'il vaut mieux se faire tuer plutôt que de faire blêmir quelqu'un en public. Elle a fabriqué une halakha, une loi. On est avant Matan Torah. Cette loi, elle est écrite dans la Gemara. Nos maîtres ont entériné cette loi. C'est pas une loi qui vient du ciel, si vous voulez. C'est une loi qui vient de Tamar. Elle a inventé une loi qui est devenue une des lois d'Israël. Il y a donc une notion de modèle. Il y a un prendre modèle sûr avant Matan Torah, mais celui qui prend modèle sûr, un individu, c'est ou Hachem, ou c'est le clan d'Israël qui prend modèle sur un individu. Il y a donc une capacité d'un individu de fabriquer littéralement une conduite divine ou une conduite du clan d'Israël, c'est un peu la même chose. Il y a donc une puissance des individus, un homme, une femme, peu importe. Il y a une puissance des individus qui se manifeste par leur impact, si on peut parler comme ça, sur ce qu'on appelle la conduite divine, et ce qu'on appelle la conduite du clan d'Israël. C'est pas n'importe qui, Tamar, bien sûr. Abraham non plus n'est pas n'importe qui. Tamar, c'est l'ancêtre de David. C'est aussi l'ancêtre du Mashiach. Bon, alors, effectivement, n'importe qui n'est pas un modèle. Mais l'homme peut être un modèle pour, si on veut parler comme ça, pour Hachem et pour le clan d'Israël aussi. Donc il y a une valeur exemplaire de la conduite, mais de la conduite de certains personnages. Il y a aussi un paradoxe. Il y a un paradoxe dans le fait qu'il y a trois avot. Enfin, trois avot et quatre imaot. Il y a trois patriarches et quatre matriarches, puisque Jacob avait deux épouses qui comptent comme matriarches. il y a une halakha qu'il n'y a pas plus que 3 avot et pas plus que 4 matriarches. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'est pas un patriarche, que David n'est pas un patriarche. Il n'y a que 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais comment est-ce que Yitzhak, qui est fils d'Avraham, comment est-ce qu'il peut être patriarche? Bien sûr, tous ceux qui sont pères ont été un jour fils. Ça, c'est clair. Donc, être père, ce n'est pas contradictoire avec le fait d'être fils, mais être patriarche, est-ce que c'est compatible avec le fait d'être fils ou même petit-fils, quelqu'un dit Yaakov? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un patriarche? On a dit dans les dernières conférences, l'avant-dernière, on a pris surtout le modèle d'Abraham et on a dit justement que Abraham est quelqu'un qui a inventé. Si vous voulez, c'est l'autre sens, il existe aussi en français. Quelqu'un est le père de la nation, il est le père de la bombache, etc. Quand on utilise le mot père pour dire l'inventeur de, ou le constructeur, le fondateur de. Donc cette dimension d'innovateur. Et on a dit que bon, on pouvait bien comprendre cette notion de prendre modèle sur, dans la mesure où on allait prendre modèle sur Abraham et on se doit d'être innovateur. Bien sûr, c'est juste en soi. Alors, il y a ici deux questions, deux problèmes, si vous voulez, qu'il faut soulever. C'est d'abord, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire d'abord. C'est d'abord le fait que dans la Torah, c'est même dans le premier paragraphe du Shema, donc tout le monde connaît, on parle de Hayom, aujourd'hui. On dit V'hayu ha-devarim ha-ele, et ces paroles que je vous, qu'Hachem nous ordonne, disons, Hayom, aujourd'hui, etc. Et la dracha est connue, ces paroles divines, elles doivent être à tout moment comme si elles venaient de nous être données. C'est-à-dire que nous devons nous appliquer à les voir comme quelque chose de radicalement nouveau à chaque fois. Bien sûr, on pourrait dire, ben, c'est trivialement réalisé, à cause d'Héraclite, on sait très bien qu'on a changé entre hier et aujourd'hui, et donc c'est plus le même qui fait la mitzvah, même si c'est la même mitzvah que je suis en train de faire, je suis en train de nouveau d'allumer les lumières de Shabbat ou de mettre des tefillines, etc. Mais j'ai changé, donc la mitzvah est changée. Mais c'est pas de ça évidemment qu'il s'agit, c'est à moi à faire un travail pour que cette mitzvah, qui est une mitzvah que je fais quotidiennement, par exemple, ou même hebdomadairement, peu importe, mais qu'on fait régulièrement, qu'elle soit à chaque fois comme si elle venait de m'être donnée, toute neuve. Donc, on a une obligation d'innover. Et pas seulement d'innover une fois dans sa vie ou 10 fois dans sa vie, mais quotidiennement et sur toutes les mitzvot. Par conséquent, quand nos maîtres disent qu'on doit Chayav Adam Lomar, Matay Yagiu Maasai, quand est-ce que mes actions arriveront à la hauteur de? Si on dit qu'arriver à la hauteur de, c'est quand est-ce que mes actions seront innovantes, ben c'est déjà dit dans les mitzvot. Or ce texte, il vient, si vous voulez, dire quelque chose qui n'est pas dans les 613 mitzvot. beaucoup disent que ça n'a pas été, ce texte-là n'a pas été introduit comme une mitzvah dans Shulchan Aruch, etc. Donc ça vient dire quelque chose en plus. Alors qu'est-ce que... Il y a ce deuxième point qui va peut-être nous aider. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce triplet-là. Prendre modèle sur ces trois patriarches. En quoi est-ce que les trois sont patriarches? En quoi est-ce que Yitzhak est patriarche? Qu'est-ce que la Torah nous raconte d'Yitzhak? Qu'il a recreusé les mêmes puits que son père. Donc il a copié son père. La copie, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pas mal de copier le bien, mais je ne vais pas jusque-là. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Et on n'est jamais sûr, d'ailleurs. Lot, dont on a parlé, il a copié Abraham sur la mitzvah de l'hospitalité. Il a vécu chez Abraham. Il a vu ce qu'était l'hospitalité. C'est pas la maison d'Abraham, donc vous savez bien, c'est cette fameuse maison qui est ouverte des quatre côtés pour qu'on n'ait même pas besoin de se présenter d'une certaine manière pour pouvoir entrer chez Abraham. Au point qu'on est obligé de se demander, mais qu'est-ce qui restait de la maison? Si on pouvait entrer des quatre côtés, il n'y a plus de maison. C'est pire qu'une auberge espagnole. Et on dit non, il y a une loi quand même dans cette maison. La loi c'était, vous laisserez la poussière idolâtre qui colle à vos pieds à l'extérieur. Vous lavez les pieds, ça veut dire, je sais que vous êtes idolâtre, mais chez moi vous n'entrez pas d'idolâtrie. Donc il y a une règle, et donc la règle de la maison, ce qui en fait une maison, ce qui la ferme par rapport au reste du monde, c'est bien ça une maison? C'est un lieu dans lequel on est à l'abri de l'idolâtrie. Tout le monde peut être... On n'est pas à l'abri des idolâtres. Parce qu'Abraham pensait, il avait suffisamment confiance dans sa Torah, dans son enseignement, pour être sûr que s'ils entraient chez lui, ce ne serait pas eux qui donneraient le ton dans cette maison, mais lui continuerait de le donner. C'est important d'être sûr que dans sa maison, on reste celui qui donne le bon ton. On peut ouvrir la maison à toutes sortes de gens, mais il ne faut pas qu'on perde, que la maison perde le caractère d'être « c'est ma maison, j'en suis responsable, je dois y faire régner une certaine atmosphère, c'est obéir à certaines règles ». Abraham était sûr qu'il pouvait avoir une tablée pleine d'idolâtres, c'était quand même lui qui donnerait le ton. Donc il pouvait se permettre, mais il y avait une règle qui faisait la maison en réalité, une loi qui fabrique la maison. Donc c'était l'hospitalité faite homme au sens large, c'était toute la famille. Quand il reçoit les fameux anges sans savoir que ce sont des anges, il met toute la maison en branle. Tout se fait au galop, il court, il fait courir Sarah, il court lui-même, tout le monde court. Pour qui? Pour trois étrangers qu'on connaît, ni d'Ève ni d'Adam, qui n'avaient absolument pas besoin de venir, qu'on a supplié de venir dans la maison pour pouvoir leur offrir l'hospitalité. Alors Lot a vu ça, et quand les anges viennent, qui vont détruire cet homme, il leur offre l'hospitalité en risquant sa peau. Après, il a proposé de substituer la peau de sa fille. Mais, bon, initialement, c'était sa peau qui restait. Mais en même temps, il est Asdom pour les raisons qu'on connaît, parce qu'il y a plus de richesses, etc. Et finalement, il se fait avoir complètement. Au moment où il pense qu'il va pouvoir dire quelque chose, il voit qu'il a complètement échoué. Mais ça veut dire qu'il était l'élève, il a copié Abraham dans l'hospitalité, mais il n'a pas compris que ça formait un tout, que on ne pouvait pas copier simplement. Et comme quand on n'est pas exactement le même, ça ne peut pas réussir. Par parenthèse, il faut dire, il faut poser une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Pas une raison pour ne pas la poser. La Torah dit que Abraham et Sarah ont, on va dire, converti pour eux. Ils ont ramené énormément de gens. Quand ils étaient à Haran, ils ont ramené énormément de gens aux valeurs, quelles étaient les valeurs d'Abraham. Disons, ils ont converti énormément de monde. Et la question qu'on est obligé de se poser, c'est: quand Yitzhak naît, il grandit, il n'a personne pour jouer au foot. Il n'y a pas d'enfants. Où sont les enfants de tous ces gens? Ils n'existent pas. Comme si ces gens n'avaient pas eu d'enfants. Bien sûr qu'ils ont eu des enfants, mais où sont-ils? Il y a un midrash qui nous met un peu sur la piste, qui dit que tous les hommes qu'Abraham a ramenés se sont appelés Abraham. Et toutes les femmes se sont appelées Sarah. Ça veut dire qu'en réalité, ils se sont imaginés qu'il fallait fusionner avec Abraham, fusionner avec Sarah. Or, la fusion, c'est ce qui ne permet pas la transmission. On ne peut pas transmettre s'il y a fusion. La transmission, elle exige un espace. Et donc, Abraham, qui a été choisi par Hachem parce qu'il est un bon transmetteur, c'est comme ça que le texte justifie le choix d'Abraham, il les a laissés se fourvoyer ici. Alors, parce qu'ils ont fusionné, ils n'existaient plus, donc leurs enfants n'avaient plus de parents. Les enfants n'ont pas suivi du tout. Parce qu'il n'y avait pas de parents. Les parents étaient dans comme dans la secte, quoi. Ils n'existaient plus. Ils étaient en fusion avec Abraham. La question qu'on peut poser, c'est effectivement pourquoi Abraham et Sarah ne les ont pas empêchés de fusionner. Ils n'ont pas obligé à garder une distance. Peut-être qu'on ne peut pas. Donc, je ferme ici la parenthèse. Le modèle d'Abraham était un modèle qui correspond à ce qu'on appelle sa mida principale. Sa mida, c'est sa qualité principale. La qualité d'Abraham, c'était le chesed, la générosité. Nous avons tous, probablement, on peut dire, l'ensemble des qualités et des défauts qui existent. On les a tous. Seulement, on les a avec des poids spécifiques. Chacun a répartition spécifique pour le coup. Cette mida est plus forte, celle-là moins forte, etc. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a tout, mais peut-être que c'est faux. Mais on a tous une mida principale positive, et donc une qualité principale et un défaut principal. Donc la qualité principale d'Abraham, c'était cette générosité. Et donc copier Abraham, c'est copier la générosité. La qualité principale d'Yitzhak, c'est ce qu'on appelle la gvura, c'est la rigueur. Donc copier Yitzhak, c'est copier la rigueur. Copier Yaakov, c'est copier le Emet, la recherche de la vérité. C'était la caractéristique de Yaakov. Et comment ils avaient chacun une mida principale. Alors, je ne peux pas. Personne n'est à la fois très grand en Chesed, très grand en Gvoura et très grand en Emet. Eux non plus ne l'étaient pas. Chacun avait une mida principale. Comment est-ce que je peux les copier tous? On a rapporté dans l'avant-dernière séance, rapporté deux Gmarot, une Gmara dans Sota, une Gmara dans Shabbat, qui étaient des Gmarot sur l'imitation. Dans un cas, il s'agissait d'imiter Hachem par le biais des mitzvot, je vais expliquer un tout petit peu, et dans l'autre cas, il s'agissait d'imiter Hachem par les midot. Alors j'explique tout de suite ce dont il s'agit, mais il faut dire d'abord que chaque fois qu'on dit quelque chose sur Hachem, c'est pas qu'on dit Hachem est généreux, que bien qu'on dit qu'il rend visite aux malades, etc., il faut bien entendu entendre que on n'est pas du tout en train de faire de la théologie, en train de dire quoi que ce soit concernant Hachem. Sur Hachem, on ne peut strictement rien dire. Absolument rien. D'accord. Rien, ça veut dire ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Tout ça, ce n'est pas les termes qui sont adéquats hein, quand on parle de lui. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit cela? On veut dire que il faut qu'on fasse ça en comprenant qu'on fasse cette mitzvah ou qu'on essaye d'acquérir ce comportement en comprenant que c'est fondamental. C'est une façon de nous dire que la chose est absolue en quelque sorte. Mais ça ne veut rien dire du tout sur lui, évidemment. Donc quand on nous dit, comme dans la Mara sur les Midot, de même que lui, il est, lui c'est Hachem, de même que qu'Hachem est généreux, qu'il est tendre, etc., qu'il est longanime, etc., toi aussi tu dois l'être. La première partie qui dit il est, c'est pas très intéressant. Bon, c'est simplement une façon de nous dire que ces choses-là sont fondamentales pour le comportement humain. Et donc, ça s'appelle, c'est ça l'imitation. On imite quelque chose qu'on nous a présenté comme étant extraordinairement, enfin très élevé. Et pour dire que c'est très élevé, on a dit Hachem et tout cela. Et puis, en prenant appui sur un verset dans la Shira, dans le cantique du passage de la mer. On a dit que il fallait lui ressembler, et enfin, il fallait lui ressembler parce que on a fait une dracha sur Ve'anveu comme si c'était Ani Ve'hu. Moi et lui. Donc, avec ce est met les deux termes quasiment sur la même ligne. Et donc, on est égaux quelque part. Et puis, on va glisser, si on peut parler comme ça, et dire que, d'une certaine façon, c'est par le biais des mitzvot. C'est-à-dire, bon, c'est le début de la dracha, je vais l'embellir, c'est une première dracha. Je vais embellir Hachem, comme si on pouvait embellir Hachem. Alors on va dire, qu'est-ce que ça veut dire, je vais embellir? Je vais m'embellir moi-même. Et comment est-ce que moi je vais m'embellir? Je vais m'embellir en embellissant les mitzvot que je fais. Et donc, par exemple, je vais faire la mitzvah de loulav avec un beau loulav, etc. Donc, c'est des mitzvot d'imitation, ou bien par le biais des mitzvot, on fait des mitzvot qui, grâce auxquelles on va imiter, ou bien on va imiter les midot. En fait, ces imitations, ici, d'une manière ou d'une autre, cette façon de se conduire, on va imiter Hachem, donc on va être créateur. Et dans cette imitation-là, il y a aussi l'imitation, de même qu'il est créateur, toi aussi tu dois être créateur. Et notre façon d'être créateur, ce serait d'innover ou d'être créateur de l'embellissement des mitzvot. On va vraiment inventer, on va fabriquer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas prescrit comment on peut embellir la mitzvah. Il va falloir de l'imagination. Ce serait encore une fois innover. Encore une fois, être créateur en innovant, en inventant quelque chose qui n'a pas encore été dit ou qui n'a pas été prescrit complètement. La grande différence entre les Avot, les patriarches, et Moshe Rabbeinu, c'est que des Avot, comme je vous dis, il n'y en a que trois. Il n'y en a eu que trois. Moshe Rabbeinu, qui n'est pas un Av, il est notre maître. Et des maîtres, on en a toujours. Il y en a encore. Il n'y a pas Moshe Rabbeinu en présent. Mais la notion de Rav, elle existe encore aujourd'hui. Un maître, ça existe encore aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose dans les Avot qui nous coupe en quelque sorte. Les Avot, c'est une période bien définie, et ben, nous, on n'a plus. Et on ne peut pas dire, ben, je vais prendre modèle sur les Avot qui sont plus proches de moi. Il n'y en a pas. Par contre, sur les maîtres, on pourrait prendre modèle sur un maître qui est plus proche. C'est vrai qu'on peut aussi prendre modèle, on avait cité que Rambam disait qu'on peut aussi devenir aussi grand que Moshe. C'est vrai, c'est possible d'être aussi grand que Moshe, d'après ce que dit Rambam. Bien, c'est. Mais on peut aussi prendre modèle sur des maîtres parce qu'il en existe. On a dit que dans ce monde plein, où chacun a une place, il est absolument fondamental que chacun soit, comme on dit, makir et mekomo, que chacun connaisse, reconnaisse sa place exacte, sache exactement où est sa place. Alors, elle raconte que dans le Sanhédrin, les maîtres, quand quelqu'un était nommé dans le Sanhédrin, parce qu'un des membres du Sanhédrin avait disparu, eh bien, il savait exactement où il allait s'asseoir. Il ne s'asseyait pas obligatoirement à la dernière place. Il prenait la place qui était la sienne, au point de vue de son savoir, etc., de son rayonnement. C'est fondamental de savoir exactement qui on est, en quelque sorte, quelles sont ses forces. Chacun doit donc savoir ce qu'il a de spécifique, qu'il a en propre. Imiter, c'est extrêmement dangereux. On peut être tenté d'imiter deux types de personnes, ou bien des gens des générations précédentes qui sont morts, ou bien des gens qui sont vivants. Les gens qui sont morts, les imiter, il y a dans la Torah un interdit de ce type-là. Cet interdit, il se formule en disant qu'on est, c'est quelqu'un qui est Shoel Lametim, c'est quelqu'un qui consulte les morts. On va les imiter, on va même leur demander des conseils. Imiter un mort, la conduite de quelqu'un qui n'est plus là, sans en passer par la tradition qu'il a mise en marche, c'est-à-dire sans en passer par la façon dont les générations successives ont interprété la conduite de ce maître. C'est en quelque sorte aller consulter les morts. Pour que le maître reste vivant, il faut que ce qu'il a enseigné ou ce qu'il a, la façon dont il s'est conduit, il faut que cela ait été repris dans une génération après, mais repris et transformé obligatoirement, transmis à une génération. Et cette chose-là, elle va évoluer. Évidemment, chacun va l'enrichir, va le lire à sa manière, le comprendre à sa manière. Et ce qui va arriver chez moi, ce sera peut-être effectivement déformé. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que je ne tiens pas. Ce n'est pas ça ce que la Torah demande. La Torah, elle est vivante, et donc cet enseignement, pour être vivant, il faut qu'il ait passé par toutes les générations. Concrètement, pour dire un peu comment ça peut se présenter, on a découvert, le siècle dernier, on a découvert des manuscrits d'un rave qu'on appelle le Meiri, qui vivait à Perpignan. Et on a trouvé ça en Italie et à la BN. Et on a édité ces manuscrits. Alors, on avait des petits morceaux de cet auteur, de ce maître, dans des recueils. Mais le Chazon Ish a dit que ce qu'on avait là, maintenant, c'était intéressant, on pouvait l'étudier, mais ça ne pouvait pas être utilisé pour la fixation de la halakha. Parce que ça n'avait pas passé, ça n'avait pas passé au crible de la critique des générations successives. C'est-à-dire, on avait besoin de... Pour, tout ce qu'on a aujourd'hui, ça vient de grands maîtres, mais entre-temps, ça a été commenté, ça a été amendé, ça a été disséqué, etc. Et puis on en a retenu une partie, donc quelque part on ne prend pas tout. Ou on le prend d'une certaine manière. C'est-à-dire on a veillé à ce que ce soit vivant. Ce qui est arrivé jusqu'à moi est vivant. Ce manuscrit-là, il n'est pas vivant. Parce qu'il est tel qu'il a été écrit, même s'il a été écrit après, deux, trois siècles, peut-être après la disparition de ce maître, ou même de son vivant, peu importe. En tout cas, ce n'est pas vivant parce que ça n'a été passé au crible de la critique. Donc, le modèle qu'on va prendre, a priori, c'est un modèle, on ne va pas faire comme Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, on ne peut pas. Ils n'avaient pas reçu la Torah. Yaakov, quand il a jugé nécessaire de le faire, il a épousé Rachel et Léa, qui sont deux sœurs. Aujourd'hui, même si on admet on admettait la bigamie, on ne pourrait pas épouser deux sœurs, c'est interdit. C'est même un interdit gravissime. Mais Yaakov, qui par ailleurs a respecté la Torah avant même qu'elle ait été donnée, mais là il a jugé que c'était nécessaire, il avait besoin de ça, donc il l'a fait. Quand Amram a épousé Yocheved, qui était sa tante, ce qui était interdit, il l'a fait. a donné d'ailleurs un dream team extraordinaire, je pense, de cette relation qui est, aujourd'hui serait interdite, sont nés Aaron, Moshe et Myriam, les trois maîtres, les trois parnassim du clan Israël, sont nés de ce couple qui, en théorie, s'ils avaient respecté la Torah, c'est un couple qui ne pouvait pas exister. Mais Abraham a jugé qu'il devait le faire, et il l'a fait. Parce qu'on est avant le don de la Torah, donc ils ont respecté la Torah avant qu'elle ait été donnée, ils ont compris eux-mêmes, entrer là-dedans maintenant, et ils ont respecté, mais quand ils ont jugé que c'était nécessaire, certains disent même que c'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée à ce moment-là, qu'elle n'a été donnée que plus tard, pour laisser ces choses-là se faire. Donc je ne peux pas prendre modèle sur Abraham, Yitzhak et Jacob en tant que personnage. Je ne peux pas faire ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas du tout dans les mêmes conditions qu'eux. Alors, on a fermé la porte, on a dit, mais on ne peut pas dire non plus que c'est simplement être innovant, puisque être innovant, c'est déjà une obligation par ailleurs, même qui va beaucoup plus loin que cela, puisqu'on doit être innovant, comme on a dit, chaque jour, dans chaque mitzvah. Ce doit donc être plus que ça, plus qu'innover. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je crois que ce qui est important, c'est que le modèle n'est pas un personnage. Le modèle n'est pas Abraham. Le modèle, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Yitzhak Koutner a caractérisé ces trois personnages en disant qu'ils étaient des patriarches, dont des premiers, des inventeurs, c'est-à-dire des inventeurs et des gens qui sont trouvés dans une situation particulière. Abraham est le premier, on va dire comme ça, le premier qui est devenu juif, le premier converti, si vous voulez. Yitzhak est le premier qui est né juif. Et Yaakov est le premier qui est resté juif. D'ailleurs, le premier et le dernier, puisque pour pouvoir rester juif, il faudrait pouvoir partir. Or, le dernier qui a pu partir, c'est Esav, frère de Yaakov. Mais depuis, on ne peut plus partir. Quelqu'un qui naît juif, il ne peut pas sortir, il ne peut plus quitter. Il est juif à son corps défendant. Donc, le premier à être devenu, le premier à être né, et le premier à être resté. Prenons Yaakov. Yaakov, c'est celui qui est resté. On pourrait penser que, pour aller au-delà de l'innovation, en tout cas, au moins innover, il faut quitter, il faut aller ailleurs. Il faut prendre un chemin différent de celui de son père. Dire que Yaakov est un patriarche, c'est dire que non. Il ne faut pas quitter réellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le chemin d'Esav, de son frère, n'est pas un chemin plus glorieux? Est-ce que ce n'est pas un chemin qui apporte à la Torah un rayonnement bien plus grand? fait connaître Hachem à beaucoup plus de monde que Yaakov. Je ne parle pas d'Esav en tant que ayant dévié, ayant mal fait, mais celui qui s'est séparé de Yitzhak, par exemple, en ayant une gvoura, une rigueur, une puissance extravertie par opposition à celle d'Yitzhak qui est introvertie. Donc, en fait, son chemin à lui était beaucoup plus rayonnant. Et même les questions que Esav pose à son père, est-ce qu'on doit prendre la dîme, le maaser sur la paille, sur le sel, etc., dont on fait les gorges chaudes. Mais on peut très bien les entendre différemment. On peut évidemment les entendre comme venant de quelqu'un qui se dit, mais pourquoi est-ce que je ne prendrais pas non plus la dîme de tout ce qui me sert, du sel qui est le conservateur de toutes ces nourritures, de la paille qui est le porteur de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la dîme là-dessus aussi? Et puis, nos maîtres disent que Esav n'était pas irrécupérable. On fait reproche à Yaakov d'avoir caché Dina pour que Esav ne puisse pas l'épouser. Dina était, on va dire, une sorteuse. Comme Esav, en fait. Mais quand Yaakov l'empêche de ramener Esav, on peut se demander, est-ce qu'il ne la pousse pas vers une sortie hasardeuse, qui tourne mal, très mal même, non seulement pour elle, puisqu'elle est violée, mais finalement pour Shimon et Lévi, pour la tribu de Shimon et la tribu de Lévi, il n'y a qu'à écouter les brachot de leur père, il faut les disperser, c'est un danger public, il faut les disperser dans le clan Israël, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas avoir deux tribus comme Shimon et Lévi, parce que sinon ils risquent de nous entraîner dans la guerre, etc., comme ils l'ont fait dans l'histoire de Shrem. Donc c'est terrible cette histoire. Alors, il me semble, si on regarde, je reviens sur Yitzhak. Dans Pirkei Avot, on dit « Al kochacha ata nolad »« À ton corps défendant, tu nais. » Tu n'as pas choisi de naître, même. Donc, il est né. Il est né chez son père et sa mère. Il est né juif, il n'y peut rien. Et donc, il va recreuser, il est un fils, il va recreuser les puits que son père avait creusés et que les Philistins ont bouchés. Mais il va refaire les mêmes gestes, mais en leur donnant un autre sens. D'accord ? Abraham a creusé les puits par générosité, pour que les gens puissent venir s'abreuver. Yitzhak va creuser les puits, mais ça va être une manifestation de sa puissance. Vous voulez avoir de l'eau, il va falloir l'acheter, etc. Il va les écraser avec sa puissance. Avimelech va lui dire, mais on n'en peut plus, on ne sait plus sur quel pied danser avec toi. T'es tellement riche, tellement puissant et tout. Abraham aussi était très riche, mais personne ne s'en est plaint. Il n'a écrasé personne. Yitzhak, d'une certaine façon, les gens, en tout cas, même s'il ne l'a peut-être pas voulu, mais les gens l'ont perçu comme quelqu'un qui écrasait. Mais quand est-ce que Yitzhak fonctionne vraiment bien? C'est quand il obtient la paix de ses voisins, lorsque ils arrêtent de contester les puits à Rehovot. Donc, sa force à lui, ça a été de poursuivre et néanmoins, tout en continuant l'œuvre de son père, d'en faire quelque chose d'autre. C'est les mêmes gestes quasiment, mais il leur a donné un tout autre sens. Et cette capacité-là, justement, à être fils et néanmoins ne pas se contenter d'être un copieur, ça c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on peut apprendre d'Yitzhak. Yaakov, lui, il doit se confronter à un frère qui est éduqué comme lui, par un père qui semble lui préférer Esav, préfère son frère, un frère rayonnant, qui sait comment rompre avec son père. Et qu'est-ce que Yaakov peut faire? Comment est-ce qu'il va exister? Il existe tellement fortement qu'il est devenu un patriarche. Quel problème est-ce qu'il va résoudre et nous en donner le modèle, en quelque sorte? Il va nous montrer comment on peut exister, comment un individu peut exister dans un mini-klal, comment on peut exister dans un monde, comment on peut être singulier, comment on est capable d'exister dans un monde qui n'est pas obligatoirement entièrement acquis à soi. Un monde où il y a de l'animosité, où il y a des adversaires. Il me semble que ce qu'on nous demande ici, quand on nous dit qu'on a l'obligation de dire quand est-ce que mes actions arriveront à la hauteur de celles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les trois à la fois. Et les trois à la fois nous montrent justement que, en fait, on est toujours dans une de ces catégories-là. Ou bien on est devenu, ou on est né, ou on est confronté à la tentation de quitter. Et donc, on est celui qui reste, malgré tout. Et qui néanmoins trouve son chemin, bien entendu. Donc, c'est bien innover. Mais c'est pas innover dans donner un autre sens aux mitzvot, etc. C'est innover par rapport à son père, par rapport à son frère, par rapport à son milieu, pas par rapport à la façon dont je fais les choses, mais par rapport au monde dans lequel je suis. Donc c'est la possibilité d'exister, on peut presque dire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est. Et donc, d'une certaine manière, c'est la capacité d'exister, par exemple, en galoute. Par exemple, dans un milieu déjà vraiment hostile. Et pour pouvoir cohabiter, coexister, être dans le même monde que Esav, quand Esav devient vraiment son ennemi, qui à un moment donné donc veut le tuer, avec lequel il va falloir jouer très serré. Ça, on l'a appris de Yaakov. Ça, c'est mes actions. Comment est-ce que mes actions peuvent être à cette hauteur-là, à la hauteur de ceux qui ont été à la fois, qui ont été des patriarches, bien qu'ils aient été fils et petits-fils de patriarches. Et donc, les modèles qu'on a vus, ce qui nous enjoint, il faut prendre modèle sur Hachem, soit dans les mitzvot, dans les midot, etc. C'est une chose, c'est nécessaire. Effectivement, il y a des valeurs qui sont des valeurs absolues. Mais cet enseignement-là, il vient pour nous indiquer comment effectivement, quand la Torah nous dit que les mitzvot que tu vas faire, par exemple, doivent être à tes yeux comme si elles venaient d'être données, comment faire pour qu'elles soient comme si elles venaient d'être données? Quelle latitude est-ce que j'ai pour pouvoir donner un autre, enfin, en faire autre chose, en quelque sorte. Alors, il y a bien sûr la possibilité de les embellir à ma manière. Je vais, dans ce domaine-là, je vais embellir, je vais faire ce que je veux comme embellissement. Ça, c'est libre. C'est bien une façon de se singulariser. Mais on dit, il y a une autre façon de se singulariser aussi. Et cette façon-là, elle est dite comme une obligation qui n'est pas devenue une mitzvah, mais il faut dire à qui on doit le dire. Rav Adam Lomar, à qui est-ce qu'il faut le dire? Ici, c'est une parole qui doit générer des gestes, en quelque sorte, ou qui est peut-être déjà le commencement des gestes, dans la mesure où effectivement, on prend modèle ici sur justement sur des gestes qui n'étaient pas prescrits. Les Avot, eux, leurs gestes n'étaient pas prescrits, n'ont pas reçu les mitzvot. Et donc je vais faire des gestes qui ne sont effectivement pas encore, enfin qui ne sont pas prescrits, qui vont au-delà des prescriptions, au-delà des mitzvot. Qu'est-ce qui va au-delà des mitzvot? Ben justement, certains comportements et certains embellissements, donc des mitzvot par exemple. Ça va au-delà de la mitzvah elle-même. C'est ça la nouveauté, me semble-t-il. Le modèle existe, on peut le choisir comme tel, il faut savoir que on s'inscrit dans quelque chose, on s'inscrit dans un peuple. C'est 22 000, ce chiffre de 22 000 qui indique, si vous voulez, le nombre de melachot qui sont à faire, les travaux fondamentaux du monde qui doivent être faits. Ces travaux-là, il faut qu'ils soient faits, mais chacun d'entre nous est un monde plein par rapport à cela, c'est-à-dire le monde dépend de lui, c'est-à-dire grâce à lui, le nom divin, le nom plein peut résider dans le monde. Mais il doit savoir qu'il s'inscrit dans un klal. Il s'inscrit dans une collectivité. Et je crois que le travail, c'est un travail, si vous voulez, qui va toujours, c'est toujours le même mouvement. C'est un mouvement de divergence et de convergence. Il y a divergence, c'est-à-dire on a un individu, des individus, et puis ça explose, si vous voulez. Vous avez Yaakov, ça donne 12 fils, ça donne un klal, et après il faut faire converger tout ça. Ça doit reconverger. Et il me semble qu'on passe de l'individu au klal et de nouveau à l'individu. Mais l'individu qui, en deuxième position, c'est tout à fait différent. Celui-là, il est... C'est un individu qui a déjà compris qu'il fallait qu'il s'intègre dans le klal, il fallait qu'il joue son rôle dans un klal, et néanmoins qu'il ne se fasse pas manger par le klal. Il ne faut pas qu'il disparaisse dans le klal. Il ne faut pas qu'il fusionne avec le klal. Il faut qu'il reste un individu dans le klal. On voit très bien que chaque fois que la Torah... que dans la Torah on compte les personnes qui font le klal, on veut savoir combien il y a de personnes, on sait très bien que c'est très dangereux de compter, parce qu'on va devenir un numéro, quoi, quelque part on va perdre son individualité, et ça Souvent, ça tourne mal quand on ne prend pas des précautions. Dans le décompte qui est fait, qu'on a fait la semaine dernière, dans la lecture qu'on a fait la semaine dernière, les Bnei Israël sont venus, chacun est venu avec son arbre généalogique. Chacun est venu et il a été compté. Mais il a été compté en tant que « Ah, toi, tu es de cette famille-là », etc. Donc, au moment où il a été compté, on a, au contraire, on l'a montré comme étant quelqu'un de singulier. D'avoir été reçu par mon cher Rabbeinu à ce moment-là, et à ce moment-là, il a été, on a mis en évidence qui il était, pour justement éviter que le conte soit quelque chose de nivelant, qui fasse disparaître les personnes. On n'est plus qu'un numéro, on sait ce que ça veut dire, on n'est plus qu'un numéro. Donc, ce problème-là, c'est aussi maasai, mes actes, doivent être à la hauteur des actes de mes ancêtres, mais ce doivent être mes actes. On ne dit pas que je vais faire les actes de mes ancêtres, je ne peux pas. Mais c'est à la même hauteur. Quelle est l'auteur? Enfin, à quelle hauteur? C'est ça, c'est que eux n'étaient pas. Ils ont su, chacun, être pleinement ce qu'il était et ne pas disparaître. Bon, c'était surtout le cas. Enfin, Abraham, il a su devenir. Il a su ne pas disparaître dans la civilisation ambiante, qui était la sienne, dans celle dans laquelle il a vécu. Il a su sortir de là. Et Yitzhak, il a su sortir à sa manière. Ne pas être une copie conforme de son père, parce que la tentation, évidemment, était d'être une copie conforme de son père. Le père, tout le milieu était complètement un milieu hostile. Donc on va faire la même chose que son père. Il a su se singulariser par rapport à son père. Toute une partie de sa vie, il était quasiment au service de son père. Enfin, c'est une des grandeurs d'Yitzhak, la fameuse Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. C'est pas, vous avez quelqu'un qui a 37 ans. C'est pas un bébé. C'est un adulte. Et il s'efface complètement devant ce qui était une épreuve présenté comme une épreuve d'Abraham, une épreuve de son père. Et il dit à son père, il faut que tu me ligotes, parce que si tu ne me ligotes pas, je ne garantis pas que je ne vais pas bouger. Et si je bouge, le korban, la shrita sera peut-être pas bonne, et le korban, tu m'auras simplement assassiné au lieu d'avoir approché un korban. Donc, il s'efface complètement. Mais une fois qu'il a fait ce qu'il devait à son père, quand il redescend de Har Moria, qui est le patriarche à ce moment-là? C'est lui. Du vivant de son père, mais c'est lui le patriarche. C'est Yitzhak le patriarche. Lui, il a 37 ans, son père centenaire. Mais le patriarche, c'est le jeune. La preuve, c'est qu'à ce moment-là, c'est lui-même qui va chercher une femme pour son père. Et à ce moment-là, Abraham va avoir des enfants qui ne seront pas des Bnei Israël, enfin qui ne seront pas des juifs. Les enfants qu'il aura avec les Kubim, que ce soit avec Agar une deuxième fois ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, ceux-là n'appartiennent pas au peuple juif. Il n'est plus le patriarche, il est Av Hamon Goïm, il accomplit son nom, qui était d'être le père d'une multitude de peuples. Alors il a déjà été le père d'une multitude de peuples à l'intérieur du peuple juif, c'est-à-dire il est le père de toutes les tribus, qui sont des peuples, il va être le père de peuples à l'extérieur du clan d'Israël également. Donc il n'est plus le patriarche du clan d'Israël. Le patriarche, c'est Yitzhak à ce moment-là. À ce moment-là, il a sa partie propre à jouer. Il a son père, il peut respecter son père, etc. Mais c'est lui maintenant. Il faut regarder le patriarche de l'époque, c'est lui. C'est le fils qui est en train de devenir un père. Et on peut presque donner une indication sur son rôle de père, la halakha est que le père est en charge de chercher une femme pour son fils. C'est Yitzhak qui est allé chercher une femme pour Abraham. C'est Yitzhak qui est allé chercher Agar. Donc c'est lui qui a joué le rôle de père par rapport à son père. Il est le patriarche, donc il joue le rôle de père par rapport à Abraham. Il va jusqu'au bout de cette fonction, en quelque sorte, patriarcale ici. Donc, ce qu'on cherchait à savoir, qu'est-ce que c'est que le bonheur, puisqu'on a essayé de dire que justement ce bonheur c'était dans l'innovation, etc. Le bonheur c'est effectivement d'être capable de jouer sa partie, on a dit en ayant toujours cette crainte qui nous oblige à vérifier qu'on est bien en train de jouer une partie acceptable dans la Torah, mais il faut aussi vérifier que c'est bien ma partie que je suis en train de jouer. C'est pas, pour que je puisse jouer ma partie, comment est-ce que... Ben c'est ça, c'est ce que les patriarches ont montré. C'est ce que Yitzhak a montré, je joue ma partie. C'est comme ça qu'il est devenu patriarche. S'il n'avait fait que copier son père, il n'aurait pas été patriarche, il aurait été un bon fils. C'est tout. Et Jacob est un... Lui, il est à la fois un fils et aussi un petit-fils. Et il joue lui aussi sa partie. Avec cette crainte de, est-ce que je suis le pachad Yitzhak, est-ce que je suis à la hauteur, effectivement. Et Jacob aussi, Shema Igromachet, peut-être que la faute va entraîner que les promesses qu'Hachem m'a faites vont être réalisées, mais peut-être bien plus tard. Se réaliseront dans ma descendance, mais pas immédiatement, parce que peut-être moi ou mes enfants immédiats, on a peut-être fait une faute. Et donc, cette faute fait qu'on s'est disqualifié.
Hachem a perdu la Torah, avec la paracha, tout le monde est paracha et Torah. Tous les humains sont juifs, en fait, elle avait annoncé que les animaux pourraient être juifs.
Tout vient d'Hachem, mais les animaux n'ont pas d'obligation de faire Shabbat. C'est nous qui avons une obligation de veiller à ce que les animaux ne chôment, mais c'est tout.
Ah oui,
voilà. Donc, c'est ça le bonheur, c'est effectivement être capable de jouer pleinement son rôle. Et pour le jouer, effectivement, quand on nous dit Chayav Adam Lomar, c'est la condition du bonheur. Si tu ne dis pas ça, si tu ne comprends pas qu'il faut jouer ta partie et en tant que fils, tu dois néanmoins jouer ta partie, en tant que petit-fils aussi, ça ne veut pas dire et ça ne peut pas se résoudre en envoyant promener le père ou le grand-père. Il faut à la fois, il y a des halakhot qui font qu'on, à la fois on doit avoir un certain type de respect, enfin on doit avoir du respect, donc il y a certaines relations qui vont être obligatoires. Mais ce n'est pas des relations qui doivent m'empêcher d'être moi-même. C'est-à-dire, il y a une place pour que chacun puisse jouer sa partie. Et de savoir, si vous voulez, que ce n'est pas un caprice que j'ai envie de jouer ma partie. C'est une mission, c'est une obligation. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre du tout. Je suis esclave d'Hachem. Ça me libère, c'est vrai que d'être esclave d'Hachem, ça me libère de tous les autres esclavages. Ça me libère de tous les autres esclavages. Parce que si je ne joue pas ma partie, alors j'ai l'obligation, je dis,
je pense que
ce qu'est le bonheur professionnel dans la société des Lumières. Il y a ça, ils sont collaborés avec la TMB. Le bonheur professionnel dans la société des Lumières. Là, je veux bien répondre à mes questions personnelles. Je pense que nous devons mettre en entrée, c'est que la Torah n'est pas quelque chose qui nous est extérieur. C'est quelque chose qu'on n'a pas en nous. Mais si vous pouvez comprendre comme ça, la Torah c'est l'élément du monde. Et moi, comme l'élément du monde, j'ai le souple en moi, toi, il est moi, ma monde. Alors, dans ma tâche, je suis souvent, je devrais voir le pouvoir. Et eux peuvent le trouver. Avant de trouver la Torah qu'il avait en lui. Avant que ça soit son don. Le don de son, peut-être que le fait d'avoir eu de bonnes plaies, d'avoir de faire donneur, le don, c'est d'une certaine manière, ça a échoué. Le berger, son ça a vraiment échoué. Ça a échoué. On est dans l'Égypte et ça a échoué. C'est une complète réalité, c'est-à-dire qu'il a tout le fait en ce moment. Il a fait commencer. Mais lui, il a choisi. Si vous voulez, il a choisi. Tout le monde, il a choisi. Il a voulu. Il a eu une recherche. Il a fait cette recherche. Il a peut-être à qui il des choses que les autres ne voulaient pas avoir. Non, le peuple, c'est celui qui l'a reçu de l'extérieur. Alors, eux sont précurseurs. Ils sont aussi nos ancêtres. D'une certaine manière, en recevant la Torah, on va recoller avec eux. D'une certaine manière, c'est qu'ils ont quasiment coupé les deux. Ils ont quasiment tout oublié, sauf la double et le vie. D'une certaine manière, ils ont quasiment tout oublié, avec une coupure. Avec tout le reste, bam, la vie, on a tout oublié. Que tout l'acquis qui a vraiment été oublié. Non, ils n'étaient pas hors de la loi. Ils n'étaient pas hors de la loi dans la même mesure où ils devaient partir sur la loi à ce moment-là. Il se fait pas du sortir. Si on peut tirer le leçon, on peut dire c'est une impasse pour faire des voyages. Ça ne va pas. Ça a bien marché pour ceux qui étaient patriarches, justement. Là, vous êtes tranquille, de certaines manières, vous ne dérangez pas, vous pouvez faire, vous pouvez avancer, vous pouvez se laisser passer à celle ou à l'autre. qui a été le fait de suivre. Ils ont pas le droit. D'ailleurs, ils ont été les bris trop, justement, ils n'ont pas fait.
Si ce n'est pas attaché, c'est un peuple qui représente ce
peuple malais, ce moment plein.
Un peuple représente quoi alors la terre d'Israël, le peuple d'Israël qui se représente ce moment plein. Alors, le schéma malais, le nom malais,
schéma le qui ne peut pas
résider
dans son vide, c'est l'envie en eux. C'est ça que je vais dire. Ça fait pas plus
un cursus quel plus tard reste encore.
Alors que le génie, si c'est
encore plus, on est capable d'être justement des matériels.
Si encore le génie,
c'est
le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez,
la race, c'est un peu comme mon père, il faut que je devienne ma patriarche, c'est ma fonction. Mais je sois soit après notre modèle, soit sur le triage, et que j'arrive à faire de mes actions, mes actions. Mais j'en ai un intérieur, comme il y a un petit pas que cela fait à l'intérieur du cadre de ma donnée, s'obstruire de l'individu du papa, mais exister le race à la race du cadre. C'est dans un cadre, il faut pas. C'est individualisé, il faut être capable de jouer ce parti, de fournir à l'individu dans la deuxième version. Je vous invite à tout qui va de fabriquer le cas, là, de l'individu dans la. Mais l'individu qui a un intérieur du peuple va pas souhaiter son chemin. L'intérieur du peuple,
non, non. Ils ont pas une fois que les idées de cette situation des enfants. Ils sont en situation de ces langue, c'est bon. Le pseudo par la main. Il n'y a pas de problème, mais son problème, c'est rester lui juif. Son problème, lui, c'est. Les premières mises, il ne connaissait pas. Son problème, c'est vrai que son problème, je suis né. Voilà le. Il est le premier qui est en même temps sur ce. Mais lui, il avait l'air très faible. Il a montré qu'on pouvait sortir. Il avait l'air très faible. Il a fait un bon pour lui.
Michael n'était pas vraiment. Je me disais, j'avais dormi dans le coucou.
Lui a été donné en premier par le prince de l'Arsaf. L'ange contre lequel il a combattu, c'est peut-être cet ange-là qui lui a donné la première fois ce nom d'Israël. Et ensuite, Hachem lui a dit, Hachem a confirmé ce nom, le nom, c'est le nom que reconnaît les nations. Ce prince, c'est un ange sur les Arsaf, c'est le nom, donc le culte de les nations, qui reconnaît la supériorité ultime seulement.
Ce jour-là, on a vu la bande de la journée. Pas de bénédiction sur moi.
Le problème, c'est que devient un problème de discernement, puisque bien il y a le marché de l'ambiance des autres, le relève, et donc il ne va pas inventer, mais pas parler, on est à confronter avec l'inconnu, parce qu'on va pas jouer, c'est un mécanisme qui va inventer, c'est pas inventer quelque chose, il y a une part d'invention, d'idée que, voilà, c'est le commencement, si vous voulez, de la parole à dire. C'est pas ils vont parler, ils vont. Il y a une inspiration, mais c'est pas une inspiration. Il fait 60 000 mètres de en fait, 20 dixième, maintenant, tu vois, là, c'est là, là. Il n'y a plus de la réponse, c'est que ça a de décider comme ça. Les gens, les parmi les ils ne peuvent pas dire ce qu'on va faire, mais ils peuvent nous les aider. D'ailleurs, dans le coin, on voit le parmi les gens qui va réfléchir. Mais à nous aider, à créer la fière, et puis je vois, on discute avec eux, en prenant leur avis, ça peut nous les aider. Et on a trouvé tout à l'heure. On est dans un monde où. Par l'homme pour de plus en plus grand. C'est comme si M. HFM voulait que ce soit pas le respect pour moi. De plus en plus grand. Non, c'est pas ça. Faut pas que ce soit les choses tout seul. Je me demande aussi ce qu'on attend. Vous avez raison, je me demande aussi ce qu'on attend. Je me demande aussi ce qu'on attend. Ce n'est pas le fait que je vais faire ma façon, c'est parce que c'est juste que je suis gaucher et que je vais faire ça avec ma gauche. Ça ne veut pas faire ça à ta façon. Ça veut dire que c'est ma gauche. C'est que c'est pas de faire différemment, c'est que il n'arrive pas à faire si bien. Il n'a pas même l'intention de faire ça, de faire différemment. Il n'a pas. Bon, c'est ma jolie, il faut faire ça comme ça. On va s'entraîner à faire la même chose, on va mettre les mêmes vêtements en pensant que si j'ai les mêmes vêtements, je le suis. En se confrontant, je veux dire, c'est une fidélité qui s'est entrée sur eux. Le même être, la vérité, c'est en train d'y dans un monde qui est complètement vide, c'est une fidélité, il n'y a pas la possibilité d'y arriver.
C'est